Merci d'écouter RFI, les 5h, ici à Paris, 3h, en temps universel.
Martin Guez.
Et bon réveil. À notre écoute, voici les titres ce matin de l'actualité internationale. Les bourses mondiales qui font le yo-yo alors que la guerre tarifaire entre les États-Unis et la Chine bouleverse l'économie mondiale. Pékin désormais taxé à hauteur de 145%. Donald Trump qui a en revanche suspendu ses droits de douane pour le reste du monde. Ce qui soulage mais ne rassure pas complètement les producteurs mondiaux, que ce soit de tomates en Italie ou d'agrumes en Afrique du Sud. En Turquie, 3 procès ce vendredi pour l'opposant Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul, arrêté il y a 3 semaines. Une centaine de manifestants ont été relâchés. Enfin, en République dominicaine, journée d'hommage hier en l'honneur de Ruby Pérez, alors que le bilan des victimes monte encore et encore 3 jours après l'effondrement du toit d'une boîte de nuit. Après le rebond, la rechute de moins 3% à l'ouverture pour la bourse de Taïwan, moins 5% pour celle de Tokyo, la crainte d'une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui a affolé les marchés. Des marchés décidément bien volatiles puisqu'ils s'étaient envolés hier après l'annonce de la suspension pour 90 jours des surtaxes mondiales dégainées par Donald Trump. Suspendu pour tout le monde, sauf pour la Chine, désormais taxée à hauteur de 145%. Le reste de la planète paye pour l'instant 10% de droits de douane et c'est déjà beaucoup pour Francesco Muti, le roi italien de la sauce tomate, leader européen de la tomate en conserve, 10% qui s'ajoute aux 12% qui frappaient déjà ses produits aux États-Unis. Francesco Muti, forcément un peu amer, Léonard Jochem.
C'est un produit pas de luxe. On parle à des consommateurs qui veulent manger bien, car les consommateurs reconnaissent la qualité.
Qui dit qualité, dit prix. Et les taxes douanières américaines ont beau avoir été coupées par 2 ce jeudi, Francesco Muti va devoir augmenter le prix de vente de ses tomates aux États-Unis. Il prévoit une baisse des ventes avec une question amère.
Pourquoi les États-Unis ont décidé de bloquer vraiment une relation très positive avec l'Europe dans ces moments, qui c'est un moment dans lequel déjà on a des problèmes très très importants au niveau du monde.
Et sur le marché européen, Francesco Muti anticipe déjà l'arrivée des tomates chinoises en nombre, désormais persona non grata sur le marché américain. Et selon le chef d'entreprise, pour éviter que cette concurrence tire la qualité des produits vers le bas, l'Union européenne doit réagir.
La première chose serait de faire connaître aux consommateurs dans une manière claire la provenance de la tomate, avec des contrôles très rigides. Car c'est différent si je pense d'acheter un produit qui est produit en France, en Italie ou d'autres, ou bien il y a dedans un produit chinois.
Il espère que ces contrôles seront mis en place par l'Europe et va jusqu'à préconiser l'usage de tarifs européens contre la Chine.
Et l'Union européenne qui a décidé de suspendre sa riposte douanière ce jeudi après le spectaculaire revirement de Donald Trump. Riposte gelée pour 90 jours. Là aussi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui dit vouloir donner une chance aux négociations. Dans le cas contraire, les contre-mesures de l'Europe entreront bien en vigueur. Bruxelles qui menace aussi de taxer les géants américains de la tech en cas d'échec des négociations. Une suspension accueillie également avec soulagement sur le continent africain, de Côte d'Ivoire à Madagascar, en passant par l'Afrique du Sud où le secteur de l'automobile respire, celui des agrumes aussi, le pays qui aurait dû être frappé par une taxe de 30%, l'Afrique du Sud soulagée, mais pas entièrement rassurée, Claire Bargelès.
Le pays reste, comme les autres, touché par un taux mondial de 10%, ce qui annule les bénéfices de l'AGOA, la loi qui permettait au continent africain d'exporter certains produits vers les États-Unis sans droit de douane. Mais la suspension du taux de 30% est une bonne nouvelle, notamment pour le secteur des agrumes, dont l'Afrique du Sud est le 2e exportateur mondial. Boitsoko Tsabele est le PDG de l'Association des producteurs.
On ressent un certain soulagement, surtout que tout cela tombait sur la semaine où on commençait à emballer et exporter les fruits vers les États-Unis. Nous faisons maintenant face à une hausse de 10% des taxes, soit la même chose que nos compétiteurs. Mais nous continuons à affirmer que l'Afrique du Sud devrait en être exemptée, car nos exportations tombent hors saison par rapport à la production d'agrumes aux États-Unis.
Autre secteur qui reste sur le qui-vive dans le pays, l'automobile, puisque la surtaxe mondiale de 25% est pour l'instant toujours en place. Plus globalement, l'incertitude qui prévaut est mauvaise pour l'économie, selon Ayabo Bongatkawe de la Commission sud-africaine d'administration du commerce extérieur.
L'incertitude amène un degré de réticence à prendre des décisions pour investir du capital afin de construire des usines ou de faire toutes les choses qui permettent de créer des emplois. Et pour nous, c'est une grande source d'inquiétude, mais nous ne sommes pas seuls face à cela. Ce n'est pas un problème qui touche uniquement l'Afrique du Sud.
Le gouvernement sud-africain souhaite continuer à négocier de nouveaux accords tarifaires avec les États-Unis tout en entreprenant la recherche d'autres marché. marché. Claire Barjolès, Johannesburg, RFI.
Et les différentes réactions sur le continent africain à cette suspension de 90 jours sont à retrouver sur notre site internet www.rfi.fr. L'actualité africaine ce matin, c'est aussi cette dernière ligne droite avant l'élection présidentielle au Gabon. Demain, la campagne qui dure jusqu'au bout pour les 8 candidats qui ne sont pas soumis au silence électoral. La journée de demain, comme celle d'aujourd'hui, ont été déclarées fériées par le gouvernement pour permettre aux électeurs de faire le déplacement. Un scrutin qu'on vous fera vivre, bien sûr, sur RFI. Il est 6h05 à Ankara, comme à Istanbul, la justice turque a ordonné la libération de 107 étudiants emprisonnés lors des manifestations de soutien à Ekrem İmamoğlu. Le maire d'Istanbul arrêté et destitué il y a 3 semaines. Une centaine de jeunes turcs restent toutefois derrière les barreaux après ces rassemblements qualifiés d'illégaux par le pouvoir. Et ce vendredi, 3 procès différents concernant Ekrem İmamoğlu se tiennent en Turquie où la pression judiciaire s'intensifie sur le principal opposant au président Recep Tayyip Erdogan. À Ankara, Anand Loer.
Est-ce un hasard du calendrier ou un message du pouvoir à Ekrem İmamoğlu et à ses soutiens? C'est en tout cas l'illustration de la pression judiciaire qui pèse sur le maire déchu et candidat du principal parti d'opposition, le CHP, à la prochaine présidentielle. Ce vendredi, 3 procès impliquant Ekrem İmamoğlu se tiennent à Istanbul. L'un, dont c'est la première audience, est un procès pour menace contre un procureur en raison de propos qu'Ekrem İmamoğlu a tenus en janvier. Un autre concerne des accusations de manipulation d'appels d'offres en 2015, à l'époque où Ekrem İmamoğlu était maire d'un arrondissement d'Istanbul. Le troisième, pour récolte illégale de donations, vise des faits remontant à 2019. Et il ne s'agit là que de quelques-uns des procès contre le maire destitué, par ailleurs menacé par plusieurs autres enquêtes, dont celle qui a valu son incarcération. Face aux pressions de la justice et du pouvoir, le parti d'Ekrem İmamoğlu promet d'aller jusqu'au bout et de forcer le président Erdogan à organiser des élections anticipées. Le CHP veut notamment poursuivre les manifestations chaque mercredi à Istanbul et chaque week-end ailleurs en Turquie. Celle de ce dimanche aura lieu à Samsun, dans le nord de l'Anatolie. Anand Loer, Ankara, RFI.
L'Iran et les États-Unis ont rendez-vous demain à Oman pour une rencontre historique concernant le dossier du nucléaire iranien. Et l'échauffement diplomatique a commencé alors que Donald Trump a assuré que l'option militaire contre Téhéran restait sur la table. Un haut conseiller du guide suprême iranien Ali Khamenei a averti que l'Iran pourrait expulser les inspecteurs de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. De quoi donner le ton avant la rencontre de demain entre l'émissaire américain au Moyen-Orient Steve Witkoff et le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. On vote aussi ce week-end en Équateur, second tour de l'élection présidentielle ce dimanche. Et hier, la campagne électorale s'est clôturée. Le président Daniel Noboa sera opposé à sa rivale de gauche, Luisa González, dimanche dans les urnes. Un scrutin qui s'annonce très serré après le premier tour. Et puis, après le drame, place au deuil en République dominicaine, où le bilan s'élève à 221 morts après l'effondrement mardi matin du toit du Jet Set, célèbre boîte de nuit de Saint-Domingue. Le pays qui a rendu un hommage national hier au chanteur star Ruby Pérez qui se produisait dans l'établissement. Les opérations de secours touchent-elles à leur fin, Muriel Paradon.
Il n'y a plus d'espoir raisonnable de retrouver des survivants. Déclaration des autorités dominicaines qui doivent se résoudre à arrêter les recherches. Aucune personne n'a été sortie vivante des décombres de la discothèque depuis mardi. Le bilan déjà très lourd pourrait augmenter, des corps seraient encore piégés dans le bâtiment effondré. Selon la procureure nationale citée par le journal Listín Diario, les familles des victimes doivent être appelées pour récupérer les effets personnels de leurs proches. Durant 2 jours, ces familles se sont pressées dans l'angoisse devant la discothèque et devant les hôpitaux pour tenter de retrouver des survivants. Mais l'attente a laissé place au deuil. Ce jeudi, le chanteur de merengue Ruby Pérez, qui se produisait sur scène au moment du drame et qui est mort, a été enterré au Théâtre National de Saint-Domingue en présence de nombreux artistes. Le chanteur était très populaire. Une enquête devait être lancée après la fin officielle des recherches. On ignore toujours à l'heure qu'il est, ce qui a provoqué l'effondrement du toit du bâtiment.
Précision signée Muriel Paradon. Accident dramatique d'hélicoptère à New York. Un appareil s'est crashé dans le fleuve Hudson. Le bilan est lourd, 6 morts dont 3 enfants. Il s'agit d'une famille de touristes espagnols et du pilote de l'hélicoptère. On va terminer sur un mot plus léger du football, la Ligue Europa pour les nuls. Hier soir, 3 matchs nuls en quart de finale aller de la compétition. 0-0 entre les Glasgow Rangers et Bilbao. 1 partout entre Tottenham et Francfort. 2 partout entre l'Olympique Lyonnais et Manchester United. Seuls les surprenants Norvégiens de Bodø Glimt l'ont emporté 2-0 contre la Lazio Rome. Match retour jeudi prochain, RFI 5h10. Ici à Paris, tout de suite, grand reportage.